Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre immense contribution dans le travail de Madame Mézé. Avant de dire un mot, je voudrais commencer par ces mots de gratitude. Nous sommes une jeune unité de formation doctorale. Nous existons depuis 2017-2018. Et nous avons l'ambition de contribuer de manière significative à la formation de professionnels de haut niveau qui pourront réfléchir sur les problématiques de santé et proposer des solutions contextuelles. Pouvoir collaborer avec des experts pétris d'expérience, je pense que c'est un plus pour notre unité, pour notre pays. Parce qu'à travers votre contribution, c'est la transmission générationnelle qui se fait actuellement. Et ça, c'est très important pour l'Université catholique. Donc, nous vous disons, chers professeurs, pour infiniment merci. Vous collaborez avec nous depuis très longtemps. Vous continuez à le faire et nous espérons que les choses vont encore continuer. Je voudrais également remercier le professeur Mary Atanga, qui est infirmière, le professeur titulaire, fait partie des premières, si ce n'est déjà la toute première, universitaire, et qui ne cesse de nous accompagner. Elle aurait pu ne pas être avec nous. Elle assiste à cette soutenance en étant à l'idée, parce qu'elle aurait pu se déplacer, mais à l'idée, à cause d'un accident qu'elle a eu, elle accepte quand même de participer en visioconférence. Donc, professeur, infiniment merci. Merci également au professeur Pachal Koumawa, dont je découvre que c'est la deuxième fois qu'il participe à une soutenance de thèse ici, à l'UQAC. Merci pour toutes ces observations et contributions. Ce sont vos expertises, vos différentes contributions qui nous permettent à nous-mêmes, en tant qu'unité de recherche, d'apporter nous-mêmes un tout petit bout pour l'avancement des connaissances. Nous espérons que la collaboration va continuer. Et enfin, dans la vague des remerciements, le professeur Marie-Thérèse Mengue, que je dois signaler que c'est la présidente du conseil scientifique de l'UQAC. Donc c'est la patronne de la science à l'UQAC. Et nous avons été honorés par l'Université de Lille qui lui a conféré il y a quelques semaines le titre de docteur honoris causa. Et cette université n'en a donné, je pense, que très peu. Voilà.
Six.
Exact. Bien, vous voyez combien notre université a été honorée. L'Université catholique de Lille existe depuis 150 ans. Et ils n'ont décerné que depuis leurs 6 docteurs honoris causa, docteurs honoris causa. Et pour leur anniversaire, ils en ont ajouté 5. Et on ne peut qu'être honoré que la présidente du conseil scientifique de l'UQAC fasse partie de ces personnalités. C'est le rayonnement de notre université. Nous ne pouvons qu'être fiers et reconnaissants de son accompagnement. Vous voyez, nous l'avons sollicité de manière un peu tardive, mais elle a tout fait pour être là. Infiniment merci, professeur. Toujours dans ce jury, je vais, en dehors de ce jury, remercier la candidate, Madame Messé, qui nous a fait confiance en nous approchant pour le professeur Bou et moi, pour l'accompagner dans la rédaction de cette thèse. Professeur Bou l'a dit, elle a une énergie débordante. Je pense que ma première mission pendant ces années, c'était de réussir à canaliser. Parce que je vous assure, Elle a une capacité extraordinaire, extra. Comment vous voyez le volume 3, une thèse en 3 volumes, et pas des moindres, hein, le volume. Et c'est pas, et à l'intérieur, la densité est, elle est très élevée. La thématique qu'elle a abordée me semble très pertinente et rejoint les préoccupations de plusieurs organisations, en commençant par nous-mêmes. Nous-mêmes ici à l'UCAC, il y a une vingtaine, 25 ans, une trentaine d'années, nous avions un service ou une unité de formation continue qui allait dans les centres de santé catholiques faire ses missions de mentorat pour renforcer les capacités des personnels sur le terrain afin de réduire les questions de mortalité maternelle et infantile. Le projet, malheureusement, s'était arrêté avec la fin des financements. La SOVOC elle-même a pensé à un projet similaire avec des limitations qu'on a observées. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir une étudiante se saisir de la même problématique pour essayer de voir comment obtenir une solution pérenne. Le travail qui a été fait est titanesque. Il va largement au-delà d'un travail de PhD. Parce que dans ces quatre objectifs, le premier, qui est l'analyse des besoins, des problèmes et besoins en lien avec le mentoring, permettait déjà une très belle analyse situationnelle à partir de la critique des écrits et l'expérience des personnels sur le terrain. Le deuxième qui était la conception des interventions à partir du savoir expérientiel qui a été recueilli sur le terrain. Habituellement, les thèses ici, après cette phase-là, passent à la phase de validation de ces interventions. Vous allez observer qu'elles ne passent pas à la phase de validation des interventions, mais passent à la modélisation, à un modèle de mentorship, de mentorat clinique. Et l'approche méthodologique derrière est aussi complexe, parce que autant pour l'analyse situationnelle, elle a eu recours à une recherche mixte, quantitative, descriptive, et de l'autre côté, qualitative, descriptive et interprétative. Pour la conception des interventions, c'était encore une autre approche de recherche qu'elle a logée dans la recherche action. C'est exactement ce qu'elle a fait. J'étais un peu inquiet pour le troisième objectif, celui qui est de la modélisation du mentorat. Elle a utilisé l'approche de Tine Infirmière et Tine Kramer. Tine Kramer propose une méthodologie pour pouvoir développer des modèles. Elle peut se faire de manière inductive, comme elle peut se faire de manière déductive. Mais dans le cadre de cette thèse, l'approche est circulaire. Parce que le premier et deuxième objectif, partant du terrain, a permis de modéliser. Donc on est parti du bottom vers le top. Le modèle qu'on a obtenu, il a fallu l'opérationnaliser pour le ramener encore au niveau pratique. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une approche circulaire qui a été utilisée ici. Ce qui est encore assez particulier à mettre à l'actif de la candidate et achever avec un document concret. Ça, c'est la recommandation que je fais aux étudiants de l'UFT. Nous sommes fatigués de la recherche qui décrit, explique, interprète et puis quoi après. Nous voulons des solutions concrètes. Donc ils savent bien que quand ils finissent leur thèse, si je ne vois pas quelque chose de concret, même si c'est très beau, je vais faire mine de ne pas être satisfait. Parce que je pense qu'il est temps que les chercheurs ici, en Afrique, commencent à réfléchir sur des solutions endogènes aux problèmes que nous avons. Donc c'est ce qu'elle a fait à travers ce document. Il a le mérite d'être là. Il peut avoir des insuffisances, mais dans la phase d'implémentation, je pense qu'il va se modifier. Logiquement, après cette étape, elle devrait entrer dans la phase de la science de l'implémentation. Parce que c'est tout un processus qui permet l'implémentation d'une intervention, commençant à étudier les différents facteurs favorisant l'intervention, les processus à mobiliser pour implémenter ces interventions, les différentes hypothèses que l'on va vérifier, les résultats qui vont être obtenus, la pertinence sociale de ces résultats. Là, on est inscrit dans le pragmatisme. C'est pour dire que ce travail peut très bien continuer dans le cadre d'un post-doc, cette fois avec un projet d'implémentation où de manière concrète sur le terrain, c'est mis en œuvre et je peux vous garantir que ce document, au début de l'implémentation et à la fin de l'implémentation, il y aura une transformation. Donc, c'est important qu'on puisse arriver là, mais il n'est pas possible dans une thèse de faire tout cela. C'est pour ça qu'il y a des post-doc. J'espère de tout cœur que le projet va se poursuivre dans un post-doc ou alors avec un financement obtenu pour commencer quelque chose de concret. Voilà, je voulais mettre en exergue toutes ces contributions de cette recherche. Donc, les avenues peuvent se faire au niveau des FOSA. Une FOSA elle-même, en prenant ce document, peut décider de mettre en place son système de mentorat. Que ce soit dans le cadre d'un institut de mentorat qu'on met en place, l'institut est mis en place, et puis les FOSA qui en ont besoin font une demande, mettent le prix, et l'équipe se déplace pour accompagner. Ça aussi, c'est possible de le valoriser dans ce sens-là. Ça peut être l'ASFA qui décide également de s'approprier le projet et d'intervenir auprès des structures demandeuses. Ça peut être le ministère de la Santé qui décide de créer au niveau de chaque ministère de Santé une cellule ou bien une unité de mentorat. Ça peut être vraiment, il y a tellement de possibilités de valoriser ce travail. Je l'ai dit pour que la candidate elle-même comprenne tous les avenues possibles pour un tel travail. Donc, Madame la Présidente, je tenais à mettre en exergue la densité et la complexité du travail qui a été fait. Sur le plan méthodologique, une seule approche n'aurait pas pu permettre d'aborder cette thématique. Parce que chaque question spécifique ici renvoyait à une approche méthodologique bien précise. La première question qui est portée sur les problèmes et besoins nous oriente vers une approche mixte, vers des méthodes de recherche mixte. La deuxième nous amène dans la recherche action. La troisième nous amène dans le développement des programmes selon le modèle selon Chin et Kramer. Et ainsi de suite. Donc, c'était assez complexe. Et je pense même que pour elle, théoriser cette approche méthodologique aiderait ceux qui viendront après à mieux s'engager dans ce chemin. Donc, je voudrais la féliciter une fois de plus, lui souhaiter beaucoup de courage. Je ne lui poserai pas de questions, on en a discuté suffisamment. Je vous remercie.